Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration. Ce trimestre, nous avons parlé des notions de liberté, égalité et fraternité. Tout de suite, je vous propose d'écouter une émission sur la Ligue des droits de l'homme Gironde avec son président Jean-Claude Guichenet. Il parlera de l'histoire de l'association, de son activité et son actualité et de la campagne que mène la Ligue des droits de l'homme pour les municipales. Très bonne écoute sur O2 Radio.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les 15 jours l'écho des associations. Et oui, vous êtes bien sur O2 Radio 91.3, www.odoradio.net. L'écho des associations ce soir dédié à la Fédération de la Ligue des droits de l'homme de la Gironde. Et nous avons, pour nous parler de cette Fédération de la Ligue des droits de l'homme de la Gironde, nous avons invité son président Jean-Claude Guichenet. Jean-Claude Guichenet, bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs de radio.
Alors, très heureux de vous retrouver sur nos ondes, Jean-Claude Guichenet. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous retrouver ici à la radio, que ça soit dans le cadre de formation pour des primo-arrivants, hein, il y a quelques semaines, mais aussi sur des émissions, Chantier de la mémoire, ou d'autres, et bien entendu, chaque fois que l'on peut, on parle de la Ligue des droits de l'homme et de ses actions ici en Gironde. Alors, et vous, Jean-Claude, on va essayer de revenir sur l'historique de la Ligue des droits de l'homme, et puis évidemment son fonctionnement, mais aussi ses activités, ses missions, les objectifs qu'elle recherche à travers ses actions. Et on reviendra avec vous sur une petite revue de presse concernant l'actualité à la veille de ces élections. Hein. On le sait, en 2014, on aura à la fois les élections municipales et les élections européenne, on va dire une ambiance un peu délétère, une ambiance un peu lourde, et notamment à cause de propos racistes ou encore antisémites. Donc on reviendra évidemment avec vous là-dessus, sur cette actualité. Et puis peut-être, si on a le temps, on abordera aussi des changements concernant l'accueil des étrangers, notamment le droit d'asile, mais aussi le droit de séjour après la circulaire Valls. Et puis aussi, on dira un mot sur cette réunion ministérielle qui est revenue sur l'intégration en France, agir en profondeur contre les inégalités. Et sans oublier de parler de cette campagne de la Ligue des droits de l'homme concernant justement ces élections municipales et européennes. Donc un programme assez chargé. On verra si on arrive à trouver le temps de placer une pause musicale. Jean-Claude, en tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, si on devait présenter la Ligue des droits de l'homme en quelques lignes, on imagine qu'elle a une grande histoire et qu'elle n'est pas née d'hier. Alors voilà, quelques dates importantes concernant la création de cette Ligue des droits de l'homme en France, Jean-Claude Guichenet.
Ben, la Ligue des droits de l'homme a été créée à l'origine en 1898, donc ça remonte à plusieurs lustres déjà, à l'occasion d'une affaire qui est relativement connue, qui est l'affaire Dreyfus, l'affaire du capitaine Dreyfus, qui avait été accusé à tort de trahison, et qui a fait l'objet, à l'époque, j'aurais tendance à dire déjà, mais on y reviendra...
Oui, l'objet d'antisémitisme, finalement.
Complètement, et donc je dirais c'est sûr... Cette lutte contre l'antisémitisme à travers l'affaire du capitaine Dreyfus et le billet publié par Émile Zola. Le fameux j'accuse, que la Ligue des droits de l'homme s'est créée autour d'un noyau d'individus, dont des gens qui ont aussi été célèbres en Gironde, puisque le premier président national de la Ligue des droits de l'homme fut Ludovic Trarieux. Ludovic Trarieux était un sénateur girondin. Il a exercé des fonctions importantes.
Donc à la base, plutôt des hommes politiques, des hommes éclairés, des
penseurs. Il y avait des hommes politiques, il y avait des artistes, il y avait des gens de un petit peu tous les milieux. À l'époque, c'était plutôt des milieux qui gravitaient dans les sphères parisiennes. Et 1898, c'est la création de la Ligue des droits de l'homme au niveau national. C'est aussi la création de la Ligue des droits de l'homme à Bordeaux dès 1898, avec quelqu'un qui est peut-être moins connu, mais qui est connu de certains universitaires, qui s'appelait Émile Durkheim, qui était, l'un des pères de la sociologie française.
Tout à fait.
Voilà, donc l'historique de la Ligue part de cette affaire-là.
Alors, je vois que Bordeaux n'était pas en retard, après Paris.
Voilà, Bordeaux n'était pas en retard. Et donc, toute l'histoire de la LDH a démarré avec l'affaire Dreyfus, et s'est ensuite étendue de la lutte contre l'antisémitisme pour la reconnaissance d'autres droits, y compris les droits des salariés, y compris les droits, par exemple, je dirais, les droits des syndicaux. La LDH s'est battue pour le droit syndical, elle s'est battue pour le droit des femmes très tôt, elle s'est battue aussi, je dirais, dès le début du XXe siècle, sur la question des associations, de la liberté d'association. Donc,
très
les
cher
combats,
à notre pays, hein, Jean-Claude, liberté d'association.
Tout à fait, tout à fait. Et je crois qu'il faut aujourd'hui encore en parler, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui sont aujourd'hui un petit peu en difficulté. On sait que les crédits publics se font rares et que le tissu associatif est quand même un tissu important pour faire vivre, y compris la démocratie au niveau local et au plus près du terrain.
Tout à fait.
Et donc, c'est un, voilà, je dirais, la LDH, le combat de la LDH, le premier combat de la LDH, c'est la reconnaissance de tous les droits. Alors, depuis, le champ de nos activités s'est très largement étendu, puisque on traite aussi bien des droits civils et politiques, des questions qui restent d'actualité depuis de nombreuses années. Par exemple, si on doit reparler du droit de vote des étrangers extra-communautaires aux élections locales, c'est une des questions qui reste toujours d'actualité.
Oui, d'ailleurs, que vous avez porté même en débat.
Voilà, il faut simplement se souvenir qu'en France, le droit de vote des femmes, c'est 1945. Voilà.
Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire qu'on est en véritable démocratie, d'ailleurs, tant qu'on n'avait pas donné
après,
ce droit de vote aux femmes.
Après, on a étendu le droit de vote pour les jeunes, ouais. Donc qui s'abaissait de 21 à 18 ans.
18,
voilà. Donc, il y a eu après la reconnaissance du droit de vote des citoyens européens.
Aux élections locales.
Aux élections locales. Mmh. Et désormais, il ne reste plus qu'à boucler la boucle, si je peux dire, c'est-à-dire reconnaître le droit de vote des résidents extra-communautaires dans nos communes. Voilà.
Qui contribue à créer évidemment de la richesse
dans
notre pays.
Et on est toujours dans l'actualité, puisqu'il y aura des élections municipales cette année.
Donc
le
23 et 30 mars.
Dans un mois, en gros. Et cette possibilité-là d'exercice du droit de vote pour les résidents étrangers extra-communautaires qui sont là depuis parfois plusieurs dizaines d'années,
oui.
Elle est toujours pas effective. Donc voilà.
Donc
ça
la LDH continue son combat,
droit,
on va dire.
Droit civil et politique, il y a ça. Il y a le combat pour la liberté d'expression aussi. On en reparlera peut-être.
On y reviendra, oui.
Et il y a les droits économiques et sociaux, c'est-à-dire le droit au travail, qui est une question d'actualité, le droit au logement, qui est aussi une question importante, y compris à la faveur des prochaines élections municipales.
Le droit au travail inscrit dans la
Tout
Constitution.
À fait. Tout à fait. Le droit à la santé. Également, donc Géry, il y a toute une panoplie de droits sur lesquels nous combattons, et depuis moins longtemps, mais on se bat aussi aux côtés d'autres associations, y compris ici même en Gironde, par exemple avec Greenpeace, pour la reconnaissance des droits issus des problématiques environnementales.
Qui vont être de plus en plus prégnantes finalement ces problématiques.
Oui, alors on est moins touché ici, mais c'est vrai que par exemple, si on prend dans le cas dans certains pays, l'accès à l'eau par exemple, et à une eau potable est parfois très compliqué.
Alors certains considèrent que ça pourrait être du bien commun, quoi, finalement, toutes ces ressources naturelles.
La question du bien commun, dans une époque où, depuis maintenant à peu près 30 à 40 ans, on
tout le monde cherche à privatiser.
Absolument. La question du maintien des services publics et du bien public et du bien commun est une question centrale et cruciale, et sur laquelle il convient de se battre. Et ces combats-là, sont des combats quasiment quotidiens. Et je crois que si on a aujourd'hui des droits, il faut jamais, jamais oublier que ces droits ont toujours était le fruit de conquêtes sociales et que ce ne sont pas des acquis, ce sont toujours des luttes qu'il faut toujours combattre, des luttes qu'il faut toujours mener pour éviter qu'il y ait des reculs. Et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on est effectivement face à un certain nombre, je dirais, de reculades.
On l'a vu dernièrement, Jean-Claude, avec le droit des femmes et notamment le droit à l'avortement en Espagne et même en France.
Espagne, il y a une sérieuse menace. En France, certains voudraient effectivement faire entendre ce même son de cloche-là, en utilisant parfois des arguments un peu fallacieux, faut bien le dire, et avec un bourrage de crâne qui peut effectivement induire certains
en erreur.
Et je crois qu'il ne faudra pas se tromper de combat le moment venu, mais je crois qu'effectivement il convient bien mesurer que tous ces droits sont des conquêtes sociales et que rien n'est jamais acquis d'avance et rien n'est jamais acquis pour toujours, et que si l'on ne se bat pas quotidiennement en faveur de ces droits-là,
ils peuvent disparaître.
Peuvent facilement disparaître, et je crois que l'époque que nous vivons est une époque à la fois pleine de menaces, mais aussi pleine, je dirais, d'opportunités. Et il faut pas absolument ne pas oublier de saisir ces opportunités, ni de mésestimer les menaces.
Bon, très bien. Donc, heureusement, la LDH veille, j'ai envie de dire.
On n'est pas les seuls, mais voilà.
Avec les partenaires, bien entendu, et de nombreux partenaires. Mais vous veillez justement à ce que ces droits soient maintenus, et voire à créer de nouveaux droits aussi, bien entendu. Et ça, c'était important de le signaler, parce qu'effectivement, on peut se dire on est dans un modèle immuable. Mais non, on le sait, l'histoire. Et c'est souvent aussi des reculs.
Le monde est sans cesse en mouvement, et je crois qu'il y a des mouvements que l'on peut impulser, des directions que l'on peut impulser. Les politiques décident, il n'y a pas aujourd'hui que les politiques, mais effectivement, il y a un pouvoir de décision du politique qui est central, et il faut faire en sorte, en tant que citoyen, de ne pas omettre de saisir le moment venu, ou même de façon tout à fait récurrente, les élus qui sont aussi là pour ça, c'est-à-dire pour entendre, sur la base des arguments qu'on peut leur présenter, le son de cloche qui est celui de la préservation des droits ou la défense des droits fondamentaux. Il ne faut pas oublier que la plupart des pays ont signé une déclaration en 1948 qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle ont contribué d'ailleurs des ligueurs en leur temps. Et je crois que cette déclaration-là, elle n'est une déclaration que sur le papier si on n'essaie pas de la faire vivre.
Alors justement, on le voit, vous avez décliné effectivement plusieurs de vos activités, les missions principales de la Ligue des droits de l'homme. Alors j'ai envie de dire, s'il y avait un objectif qui pourrait synthétiser un peu la défense évidemment de tous ces droits et de nos libertés, ça serait peut-être de prendre la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, et l'avoir non pas comme quelque chose d'académique, d'institutionnalisé, mais plutôt comme un horizon à atteindre. Et vous, la LDH, vous veillerez à ce qu'on aille bien dans cette direction, c'est-à-dire qu'on s'éloigne pas de cet horizon, mais qu'au contraire, au jour le jour, on s'y rapproche, quoi.
Je crois que la devise qui est celle de la République française, que tu viens de rappeler, liberté, égalité, fraternité, j'aurais tendance aussi à rajouter solidarité et laïcité, mais au moins si on prend le triptyque liberté, égalité, fraternité, je crois que jamais, peut-être autant dans les époques que nous avons connues depuis 1945, c'est-à-dire depuis la libération, depuis le Conseil national de la résistance, jamais ces termes-là n'ont mérité autant qu'on ne se les rappelle et qu'on essaie de faire en sorte qu'ils soient effectifs. Alors c'est effectivement... quelque part.
Certains veulent même jouer sur la sémantique. Ils voudraient
certains utilisent...
enlever égalité, voilà, et le remplacer par d'autres termes.
Hein. Que l'on prenne chacun de ces termes, qu'on mesure bien ce que cela peut représenter dans le registre de liberté. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui utilisent l'argument sécuritaire à tout craint, à tout va, c'est-à-dire qu'on développe des systèmes, de surveillance, de contrôle.
Au détriment de nos libertés individuelles et collectives,
entendu. C'est d'autant plus, c'est d'autant plus sournois qu'aujourd'hui...
Dit que c'est pour votre sécurité, évidemment. On vous enlève des libertés,
alors,
mais c'est
pour
votre bien.
Il y a un certain nombre de lois qui ont été votées. Il y a eu un amendement, au projet de loi de programmation militaire, par exemple, qui utilise un contrôle et une surveillance accrue sur les réseaux aujourd'hui numériques. Et effectivement, ces technologies numériques offrent beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup d'intérêt, mais aussi constituent, si l'on n'y prend pas garde, un certain nombre, d'outils de contrôle et de menaces. Et quoi qu'on veuille. Et la vraie difficulté aussi, c'est que ces systèmes-là de surveillance, certes, se font plus ou moins, avec parfois la complicité des États qui n'hésitent pas. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec les systèmes de surveillance de la NSA.
Les États-Unis.
Les systèmes de surveillance développés aux États-Unis.
C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler à l'occasion du déplacement du chef de l'État.
Non, mais pourtant, il a rencontré les principaux acteurs du numérique, ce qu'on appelle les géants du net, dont Google, Facebook, etc.
Oui, dans la Silicon Valley.
La Silicon Valley. Et ces entreprises-là ont aujourd'hui un contrôle sur les données personnelles qui est tel...
À des fins commerciales en plus aussi.
Alors, à des fins commerciales et pas que commerciales, puisqu'on a vu des États qui ont sollicité ces entreprises pour
avoir des renseignements.
Des informations. Donc la NSA, et pas que la NSA, je pense que d'autres services, y compris ici en France, ne sont pas privés. Voilà. Donc, et la loi de programmation militaire prouve qu'il y a une tentation aussi du politique, d'aller vers, d'étendre encore plus les outils de contrôle du citoyen jusque dans la vie intime, dans la vie privée. Et donc là, effectivement, il faut être vigilant.
Alors voilà, on fait un appel aussi à nos auditrices, nos auditeurs. Faites attention, ne soyez pas que des consommateurs, effectivement, de technologie, mais pensez aussi à être citoyen.
C'est surtout faire attention à ce que l'on met sur les réseaux sociaux, sur les informations qu'on véhicule, sur soi, sur sa vie privée. Parce que ces systèmes-là ne font que recracher ce que vous y mettez, vous.
Voilà. Alors, merci pour ces récapitulatifs et ces points de situation toujours importants à faire, notamment en ce qui concerne cette devise chère à notre cœur, liberté, égalité, fraternité. Alors, si on revenait un petit peu, Jean-Claude, sur le fonctionnement de la LDH. Alors, on a parlé de vous en tant que président de la Fédération de la Ligue des Droits de l'Homme de la Gironde. Donc, on imagine qu'il y a des fédérations dans chaque département.
Alors, pas dans chaque département. Ah, ça dépend du nombre de sections. Il y a des départements qui sont plus ou moins dotés. Alors, on va parler effectivement de l'organisation de la LDH. Alors, LDH France, c'est l'association nationale. Ensuite, le noyau de base, vraiment, c'est ce qu'on appelle, nous, les sections.
Les sections. Donc, ça, c'est local, hyper local.
C'est du local. C'est à l'échelle communale ou intercommunale. Donc, on en a à peu près 8 en Gironde.
Il y en a assez pour faire une fédération.
Il y en a assez pour faire une fédération. Il y a
départementale.
Il y a une autre fédération dans les Landes. Et il pourrait y en avoir une incessamment sous peu en Dordogne.
On est assez bien représenté, donc, en Aquitaine, par la Ligue des droits de l'homme.
Oui. La Ligue des droits de l'homme est représentée dans tous les départements, ce qui est une chance. Il y a encore des sections qui se créent dans certains départements, donc c'est plutôt positif. Donc le noyau de base, c'est vraiment la section locale. Ensuite, il y a des fédérations qui coordonnent l'activité des sections, et il y a des délégations régionales désormais, puisqu'effectivement, on a aussi des interlocuteurs au niveau régional, aujourd'hui avec le conseil régional, par exemple. Donc on est structuré de cette manière-là, et la LDH, depuis 1924, est représentée au niveau international. Il existe une fédération internationale des droits de l'homme à laquelle la LDH a contribué.
Ça, c'est important. On retrouve un peu des ligues des droits de l'homme un peu dans tous les continents, sur tous les continents.
Absolument.
On se dit peut-être en France, c'est plus facile à défendre les ligues des droits de l'homme. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres pays dans le monde, c'est très compliqué.
Dans tous les pays, aujourd'hui, dans la plupart des pays, il existe des associations qui défendent les droits de l'homme, y compris dans des pays qui sont aujourd'hui dans des difficultés extrêmes, dans des conflits très durs. Je pense à la Syrie, par exemple.
Oui. Et on a vu souvent des militants emprisonnés dans certains pays, justement, défendant les valeurs universelles, droits de l'homme.
Absolument. Il y a des militants. Bon, aujourd'hui, par exemple, il y a les Jeux de Sotchi en Russie. On ne parle pas trop de ce qui se passe autour des Jeux de Sotchi, mais il y a par exemple des militants de la défense des droits de l'environnement qui se sont fait emprisonner ou mettre un petit peu en jeu.
On a pu voir quelques reportages.
Voilà, il y a ce genre de choses. Donc, dans la plupart des pays, il existe ce genre d'association. Il existe depuis maintenant l'année 2000, une association européenne des droits de l'homme qui intervient, qui surveille ce qui se passe au niveau des décisions européennes, notamment au niveau du Parlement européen.
Très bien. Et donc, vous communiquez effectivement à travers tous ces niveaux de représentation. Il y a des newsletters internes, il y a des documents
d'échange. La LDH France publie un LDH Info. Il y a une lettre d'information mensuelle qui est grand public, qui est diffusée, y compris sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc, effectivement, l'information circule et quiconque peut d'ailleurs adhérer à une association, une section.
Voilà. Alors, on est dans l'écho des assos. Justement, si certains nous écoutent, ils se disent, mais voilà, moi j'ai envie de défendre, j'ai envie de faire ces combats, voilà, valent la peine.
C'est très simple. Mais comment on fait? Très simple. Bon, pour ceux qui sont en Gironde, puisqu'on parle sur l'agglomération bordelaise, il existe un site ldh-gironde.org. Voilà, vous pouvez vous rendre sur le site ldh-gironde.org, envoyer un mail. Il y a les contacts mail, les adresses mail, donc c'est contact@ldh-gironde.org, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir.
Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous engager avec la LDH, c'est possible, ici en Gironde, près de chez vous, donc allez voir sur le site ldh-gironde.org, c'est ça Jean-Claude ?
Absolument.
Bon, très bien. Donc, on le voit, c'est le fonctionnement d'une grande association, à la fois nationale, départementale et locale, et aussi une échelle européenne et internationale, donc ce qui permet d'avoir une vision globale, finalement, des droits de l'homme sur la planète, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
Alors, avec vous, on en avait parlé dans notre sommaire, Jean-Claude Guichenet. On va essayer de revenir un peu sur cette actualité en amont de ces élections municipales européennes. Et c'est vrai que le climat, depuis quelques mois, j'ai envie de dire depuis quelques années maintenant dans notre pays, a tendance un peu à se détériorer. C'est vrai que nous ici, au Doradio, on aime parler du vivre ensemble, de l'égalité des chances, de la lutte contre les discriminations. Mais on s'aperçoit autour de nous, on va on va prendre des sujets dans l'actualité, mais que bien souvent, il y a une bonne partie de la population qui serait tentée par, voilà, par des porte-voix avec des propos racistes, on l'a dit, antisémites, ou encore contre l'islam. Hein, on le voit avec des tags et des exactions contre des lieux de prière. Voilà, dernièrement, on pourrait revenir sur l'affaire qui a concerné notre garde des Sceaux, la ministre de la Justice Christiane Taubira, avec ses insultes, ses tags postés sur le numérique, l'histoire de la banane, du singe, enfin bref, des propos ouvertement racistes. On peut aussi parler de Dieudonné, avec lui pour le coup des propos ouvertement antisémites dans son spectacle qui a été d'ailleurs censuré. Et dernièrement encore, là, il y a deux week-ends, une manif ici à Bordeaux contre la création d'une mosquée à Stalingrad. On peut reprendre dans l'ordre si vous le souhaitez, Jean-Claude, mais c'est vrai que quand on voit ça, ces événements à répétition, on se dit quand même le climat n'est pas en train de se détériorer un peu dans notre beau pays, dans notre chère France, Jean-Claude ?
Alors, première chose qu'il faut dire, tous ces phénomènes, je dirais ces discours racistes, je dirais c'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, je pense qu'hélas ça existera toujours. Ce qui est aujourd'hui manifeste, c'est qu'il y a une banalisation de ce discours qui est porté parfois non seulement par des partis d'extrême droite ou une forme d'idéologie d'extrême droite, mais qui a tendance aussi à percoler, à s'infiltrer, y compris dans les discours de certains élus parmi les partis républicains, et parfois même...
Oui, qu'on pensait plus modéré, quoi, jusqu'à
l'heure. Qu'on pensait plus modéré. Donc il y a une sorte de banalisation, et il y a certains propos, moi je regrette, qui sont tenus, y compris par des ministères du gouvernement socialiste, certains ministres, bon, je pense au ministre de l'Intérieur, qui a tenu un discours sur les Roms qui était à peine entendable, de notre point de vue. Ce qu'il faut regretter, c'est que ce type de discours porté par un représentant du gouvernement n'ait pas été repris à plus haut niveau. Résultat des courses, il y a une forme de banalisation, et comme, je dirais, ce sont des propos qui sont jugés inacceptables, de suite ça fait... Enfin, qui sont non seulement jugés inacceptables, mais à juste titre jugés inacceptables, parce que tout simplement... ils sont hors la loi.
Oui, parce qu'on parlait...
Le racisme, je dirais, est un délit.
C'est interdit.
Les propos racistes sont des délits.
Donc justement, Jean-Claude, on parlait de la liberté d'expression. Justement, la liberté d'expression a ses limites, Jean-Claude. Hein ? Il faut la défendre, mais...
Je crois que les propos racistes, je dirais, ne sont pas, sur le fond, entendables. Mmh. On peut tout à fait, je dirais, permettre à ces propos d'être prononcés. C'est ça, la liberté d'expression. Maintenant, dès lors qu'ils sont prononcés et que c'est un délit, ils doivent être punis par la loi. C'est le sens de la position qu'on a eue à propos de l'affaire Dieudonné. On en a fait une circulaire ministérielle pour dire on va interdire les spectacles. C'est une procédure administrative. Je regrette. Cette procédure administrative est une procédure d'exception. Si on fait prévaloir la procédure d'exception sur la règle de droit, on ouvre la porte potentiellement à tout un tas d'abus du point de vue, je dirais, du pouvoir.
Oui, c'est-à-dire notamment c'est la censure de spectacles, la censure de chansons, la censure de textes.
Et donc, je dirais, c'était une procédure administrative qui était prise a priori. Alors, il y a deux choses qui nous ont un petit peu surpris. La première chose, c'est que ça sorte à cet instant-là, sachant que le spectacle de M.
Dieudonné
était déjà tenu dans des salles parisiennes.
Depuis plusieurs semaines.
Oui. Mais ça n'avait pas provoqué ou suscité une réaction immédiate. Bon. C'est sorti au moment où on a dit il va y avoir la tournée et certains élus ont dit ont alerté sur le fait que il y avait ce spectacle avec des propos qui étaient inacceptables, qui étaient tenus à l'occasion, à la faveur de spectacle par monsieur Mbalambala, Dieudonné.
D'ailleurs, on a entendu sur les chaînes nationales la LDH prendre position. D'ailleurs.
Clairement,
rappelez-nous la position de la LDH.
La position de la LDH, c'est-à-dire, effectivement, nous... on préfère que le droit soit appliqué. Il y a aujourd'hui, dans la loi, des peines encourues pour avoir prononcé ce genre de discours.
Voilà,
pour avoir prononcé
discours
de peine
raciste,
raciste.
Discours
la peine, c'est au maximum.
À,
voilà. À chaque fois qu'il y a un délit de cette nature-là, c'est au maximum 45 000 euros et ou un an de peine d'emprisonnement. Sachant que le code pénal prévoit en plus que la peine d'emprisonnement peut être remplacée soit par une interdiction d'exercice de la profession, soit par une interdiction d'apparition dans les lieux où les propos ont pu être tenus.
Alors là, on s'est aperçu qu'il avait été condamné à multiples reprises, d'ailleurs.
Voilà. Donc, je dirais, sauf qu'il n'a pas payé ses amendes, qu'il n'a jamais été en prison, etc.
Plus.
Bon, voilà. Et qu'on ne lui a pas interdit d'exercer sa profession.
C'est ça. Bon, donc, la loi n'était pas respectée, Jean-Claude, en fait.
Ben, tout simplement, il fallait laisser le juge, le pouvoir judiciaire, exercer le pouvoir qui est le sien, et mener à bout les procédures. Plutôt que de, sous prétexte de, je dirais, d'interdire, de le faire a priori, en plus, en procédant de manière exceptionnelle, on donne un caractère exceptionnel et on a fait une publicité
incroyable. Il y en a beaucoup qui avaient oublié qu'il existait encore, mais du coup, tout le monde le sait maintenant.
Donc du coup, ça a donné, je dirais, une dimension absolument phénoménale à cette affaire-là, qui aurait dû suivre son cours judiciaire. Et de ce côté-là, la justice a toutes, je dirais, toutes les billes entre les mains, quoi. Les peines, elles sont là.
Peut créer une jurisprudence, finalement, qui demain empêche certains de pouvoir exercer
Voilà. En plus, s'il y avait eu que la circulaire, je dirais, a d'abord été annulée par un tribunal administratif à Nantes.
Oui, et il a fallu que sur la... C'est déjugé, finalement, quoi.
Voilà. Et le tribunal administratif, une fois la décision qui a été prise, c'est le ministère qui a saisi le Conseil d'État, qui est la plus haute instance, je dirais, administrative.
Qui dit le droit, finalement, quoi.
Voilà, qui dit effectivement la règle de droit administratif, et qui a jugé ça en disant, effectivement, il y a lieu d'interdire le spectacle de Monsieur Dieudonné. Voilà, point. Mais c'était encore une fois une mesure d'exception, une mesure administrative. Alors, même si on a dit c'est que pour le spectacle de Monsieur Dieudonné, ça crée une exception. Donc, nous, notre position, ça veut dire plutôt que la règle d'exception, appliquons le droit, tout le droit.
Et c'est très français, ça, j'ai envie de dire, Jean-Claude. On veut toujours créer une nouvelle loi alors qu'il y a déjà une loi qu'on n'applique pas souvent, quoi. Finalement, quoi.
Il s'agissait même pas de créer une nouvelle loi. Là, c'était une procédure, une démarche administrative, une circulaire du ministère de l'Intérieur. Pourquoi à cet instant-là? Bon, je ne sais pas. Il y a peut-être des élections. Mais franchement, c'est beaucoup de bruit pour une affaire qui aurait pu être résolue ou traitée, en tous les cas, par voie judiciaire, de façon tout à fait classique. Et si la justice avait pu faire son boulot jusqu'au terme, et c'est pas fini, il s'agissait de faire payer, de faire payer M. Malabala au sens propre comme au sens figuré, quoi. Je dirais, puisque la loi le permet et que le délit qui a été commis est un délit constaté. Donc, allons-y.
Bon. Oui, sachant que les fins qui sont recherchées sont assez commerciales, on l'a bien compris. Donc, si on l'attaque au portefeuille, effectivement, on risque d'avoir...
Je pense que M. Malabala peut dire merci, M. Valls. Voilà.
Très bien. Alors, Jean-Claude, on le disait, l'affaire Taubira, cette affaire de données. Dernièrement, on l'a vu à la Bastide, à Bordeaux, les manifs contre la manif organisée, on va le dire, par un parti politique, le Front National, contre la construction d'une mosquée à la Bastide, à Bordeaux. Et le même journée, je crois, l'après-midi, il y avait aussi une conférence dans l'Instoral à l'Athénée municipal qui était très suivie. Je crois que c'était 7 euros l'entrée, l'Athénée était pratiquement plein.
C'était plein.
Je crois que la L2H, vous étiez mobilisé sur les deux fronts, à la fois sur la contre-manif qu'il y avait contre le FN en rapport avec la construction de la mosquée, et aussi à l'Athénée municipale avec la conférence dans l'Instoral. Un mot là-dessus, Jean-Claude, alors...
On est, encore une fois, dans une période préélectorale.
Ça se sent, justement.
En France, on est souvent dans une période préélectorale. Malgré tout, ce sont des élections importantes, des élections municipales, c'est-à-dire qu'on touche vraiment à la proximité. Voilà. Bien. Le contexte, il est à la fois celui-là, il est celui que tu as rappelé, à savoir une sorte de banalisation d'idées d'extrême droite qui tendent à trouver ou à ériger en bouc émissaire un certain nombre de... partie de la population.
Oui, parce que là, on parle de Français, quoi.
Il y a effectivement, on parle d'étrangers, d'immigrés, mais ce sont souvent des Français.
C'est ça.
Ce sont souvent des Français.
Qui sont intégrés.
Je crois qu'il faut jamais oublier que notre pays, dans le continent européen, la France est vraiment un cas de figure.
Tout à fait.
Est un pays par excellence d'immigration, et ça date de plusieurs siècles.
On l'a vu avec ce fameux rapport du Césaire, Conseil économique, social, environnemental de la région Aquitaine.
Quand on prend les apports
de l'immigration.
Quand on prend la peine de lire les travaux de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, la CNHI, on s'aperçoit que, effectivement, les démographes ont étudié. Il y a à peu près aujourd'hui un quart de la population française de gens qui sont effectivement devenus français, mais qui sont issus, qui viennent de l'immigration, on dirait. Et la France s'est construite sur ce socle de diversité-là et sur cette richesse-là.
Avec ses apports culturels, démographiques, économiques.
Totalement.
Qui font partie de notre histoire aujourd'hui.
Et je crois que, alors on nous dit qu'il faut s'ouvrir au monde, mais le monde il est à côté de chez nous, il est chez nous. Alors qu'en fait-on de ce monde-là? Plutôt que de cracher sur un tel ou un tel, essayons de reconnaître l'autre dans sa diversité, dans ce qu'il peut apporter d'original, dans sa lecture du monde. Et effectivement, on est dans une démocratie, dans une république, on est dans un espace de débat. Et je crois qu'il y a lieu, effectivement, il n'y a rien de pire que l'ignorance. Alors, moi je vois où...
Ça, c'est vraiment l'ennemi à combattre, c'est justement...
Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé.
Les gens qui ont un avis sur tout, une opinion sur tout.
Y compris ce qui s'est passé, le scrutin qui s'est passé en Suisse récemment.
Oui, la votation citoyenne.
En France, c'est un peu pareil. Quelles sont les zones où on a voté le plus, par exemple, Front National?
Oui, c'est des zones où il n'y a pas l'étranger, quoi, en fait.
C'est des zones où il y a le moins d'étrangers.
C'est ce qu'on voit dans les
cantons. C'est tout le phénomène du
Suisse,
discours porté sur quelque chose dont la seule...
C'est le sentiment de peur qui est alimenté par ces discours démagogues,
Alors, on joue beaucoup sur les peurs, sur l'inquiétude, sur l'incertitude. Alors, il faut bien reconnaître que la période, l'époque que nous vivons est une époque particulièrement complexe.
Oui, avec
où on voit bien, y compris les limitations, y compris les limites aujourd'hui du géopolitique ou l'action du politique est pour l'instant, est encore cruciale et fondamentale. Et je crois qu'il faut pas lâcher là-dessus parce que demain, si on lâche aussi sur le rôle du politique, c'est reconnaître que effectivement il y a une faille.
Rien à faire. Alors.
Je dirais que on tombe dans quand on voit la rencontre récente entre Monsieur Hollande et les gens du net que j'évoquais.
Oui.
Quand on va rencontrer par exemple le patron de Google qui est la deuxième capitalisation boursière au monde, je dirais ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars.
Qui a oublié de payer ses impôts en France au passage.
Voilà. Je dirais que si on ne relégitime pas le politique à la place qui est celui de politique, c'est de donner une vision, une direction aux affaires de ce monde.
À la fin, c'est les grandes entreprises qui vont le faire. Et on sait
que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau européen, il faut absolument pas lâcher en tant que citoyen sur l'importance que peut avoir la démocratie, l'exercice démocratique. L'exercice démocratique, c'est certes au moment des élections, mais c'est tous les jours, au quotidien, sur le terrain. Et on est là pour aussi parler des associations. Les associations sont des instances qui doivent être reconnues comme interlocuteurs du politique sur les territoires, dans les quartiers, etc. Et je crois que ça, c'est concrètement quelque chose dont il faut bien que les gens, chacun d'entre nous, soyons conscients. C'est qu'effectivement, on a la possibilité de faire évoluer les choses simplement si on se tait et si on se limite, si on se cantonne dans une forme d'ignorance, y compris de son voisin, de l'autre, etc. Ça ne pourra pas progresser parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Qui a intérêt, finalement,
à monter une partie de la population
contre elle? Qui a intérêt, franchement, à ça? Alors, simplement, il y a des jeux politiciens. Il y a des gens qui se battent avec des idéologies qui sont des idéologies de la haine de l'autre, de la peur, de la crainte.
Il y a une peur de responsabilité justement dans
et
ce sentiment
là-dessus,
de peur.
Et on joue là-dessus, on joue là-dessus.
Ces discours politiques et les médias, j'ai envie de dire aussi,
Je dirais les médias.
Les médias de masse, je parle.
Les masses médias, effectivement, font un travail qui. On travaille sur le registre beaucoup de l'émotion. On suscite plus l'émotion des personnes que
la réflexion.
Leur raisonnement et la réflexion. Je dirais, chacun d'entre nous, quel que soit son niveau d'éducation, est capable de raisonner. Je dirais, il faut pas être sorti de l'ENA pour savoir qu'un égale un égale deux, que mon intérêt il est là ou là. Et que, chacun est en capacité et a les moyens, de se faire son idée, de discuter de cette idée avec les autres. Si on se met pas dans cette posture-là, effectivement, si la seule attitude désormais possible soit de regarder son voisin en chien de faïence ou en ennemi potentiel, à ce moment-là, c'est même plus la peine de parler de vivre ensemble. Parce que là, effectivement, on rentre dans une société qui est une société
cloisonnée, sécuritaire, avec des caméras.
C'est tout simplement l'horreur, quoi. C'est l'horreur intégrale. Nous, en tant que défenseurs des droits, on souhaite vraiment que ce dialogue-là, au niveau local, et c'est important qu'à l'échelle du terrain, qu'à l'échelle des quartiers, qu'à l'échelle des territoires, là, c'est pour ça que les municipales sont des élections importantes. C'est-à-dire, comment est-ce que aujourd'hui,
donc des associations sur le terrain comme contre-pouvoir, comme veilleurs, comme ceux qui sonnent à l'alerte et qui disent on se mobilise,
il ne faut pas laisser le monopole du discours de haine à ceux qui ont un discours de haine, parce que effectivement si on n'entend plus que ça, bien évidemment les gens vont se mettre dans la tête que effectivement mon voisin est forcément parce qu'il a un peu la peau colorée, forcément c'est mon ennemi ou c'est... Attendez, mais si on va par là, à ce moment-là, prenons tous une Kalachnikov et on va régler les comptes. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça le vivre ensemble? Est-ce que c'est le type de société que l'on souhaite? Je crois qu'il faut effectivement revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus raisonnables. On n'est pas là. On est là pour essayer de vivre et de vivre le plus décemment possible.
D'où la responsabilité des politiques, des médias, mais aussi des associations et de l'éducation aussi.
Bien évidemment, le politique, le politique, il est élu par le peuple et ça, il faut pas cesser de le rappeler aux élus politiques et pas simplement au moment des élections.
Oui, le peuple reste souverain finalement.
C'est pas simplement au moment des élections, c'est à chaque fois que c'est possible, à chaque fois qu'on peut saisir l'élu, quel qu'il soit, de quelque niveau qu'il soit, qu'il s'agisse d'un parlementaire qui vote les lois de la nation, qu'il s'agisse d'un élu local qui va régler les problèmes concrets à l'échelle d'un territoire. Je crois qu'il faut pas se priver, de faire cet effort-là à la fois de réflexion. Et je crois que
on interroge tous alors en fait, on a tous une responsabilité.
Oui, je crois ce qu'il faut voir.
On est tous citoyens finalement.
Voilà. Alors on parle des choses qui ne marchent pas parce que forcément ça fait du bruit. Le problème c'est que tu évoquais les masses médias. Les masses médias ne parlent pas de ce qui marche ou rarement. Oui. Et il y a des choses sur le terrain qui marchent.
Comme tu le disais, on est plus dans l'émotion, le spectaculaire, évidemment. Il y a des choses sur l'audience.
Mais bien évidemment, par rapport aux étrangers, y compris dans des zones rurales, moi, j'ai vu dans des zones rurales, je pense par exemple au Périgord vert, ils ont beaucoup d'étrangers qui viennent. Alors, les gens pourraient se dire, ah ouais, encore des étrangers. Mais non. Ils ont fait l'effort d'apprendre réciproquement, de s'échanger réciproquement l'apprentissage de la langue, par exemple. Et de la langue, on est passé à la découverte de l'agriculture, des mœurs des uns et des autres. On échange culturellement, on échange économiquement, puisqu'il y a des femmes chefs d'entreprise, par exemple, britanniques, qui font venir d'autres chefs d'entreprise. Donc, on peut vraiment construire des choses intéressantes. Et on peut, ne serait-ce que au travers ça, faire vivre, le monde tout près de chez soi et essayer de s'ouvrir à l'autre simplement, et de construire avec l'autre.
J'ai envie de dire, ça s'est toujours fait de tout temps.
Et ça s'est toujours fait. Alors, ça n'a jamais été facile, attention. Mais ça s'est toujours fait. On a réussi toujours à construire sur ces bases-là. Et je crois qu'il ne faut pas lâcher, absolument rien lâcher là-dessus.
Alors, on parlait tout à l'heure, tu voulais rajouter, Jean-Claude, à liberté, égalité, fraternité, solidarité et laïcité. Je voulais revenir avec toi justement sur la laïcité, notamment ce manif contre un lieu de prière, contre une mosquée, c'est un peu ridicule. On le sait bien, la laïcité, justement, c'est la loi qui permet à tout un chacun de pouvoir exercer son culte, toute sérénité, même à ceux qui n'exercent pas de culte. C'est un espace réservé à chacun pour croire ou ne pas croire en sa religion. Donc, c'est quoi cette histoire qu'on refuserait, aux musulmans de construire une mosquée?
La loi sur la séparation des églises et de l'État est une loi de 1905. Je crois qu'on a oublié et la lettre et l'esprit de la loi. Et que certains, aujourd'hui, instrumentalisent la notion de laïcité. C'est une laïcité, on va dire, orientée.
Oui.
Parce que ceux qui se battent contre le projet de grande mosquée de Bordeaux sont aussi ceux qui promettent, ont plutôt des accointances avec certaines formes, de religion, pour ne pas la citer, la religion catholique.
Oui.
Alors, pourquoi pas? Mais pourquoi prôner la laïcité en disant ma laïcité, c'est la laïcité qui favorise telle religion plutôt que telle autre.
Et non, c'est pas ça la laïcité.
La laïcité, ça n'a jamais été ça. La laïcité, c'est très simple. C'est de pouvoir permettre à chacun de croire dans la religion quelle qu'elle soit, y compris de l'exprimer sur la place publique, ou de ne pas croire, ou de changer de religion, quand ils le souhaitent.
Justement, voilà. Un espace de liberté.
C'est tout simplement assurer la laïcité, c'est une garantie de la liberté et de la liberté de culte, quel que soit le culte. Voilà. Alors, la laïcité, ça n'a jamais été imposée.
C'est bien de le redire de temps en temps, Jean-Claude.
La laïcité, ça n'a jamais été d'imposer une religion contre une autre, hein. Dominante contre une autre religion. Je dirais, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, voilà. Après, je passerai sur les arguties langagières de l'affiche qui a été produite par le Front National pour cette affaire-là, qui parlait non pas de grandes mosquées, mais de centres islamistes. Ou islamique, et qui ne parlait pas, je dirais, de la Fédération musulmane de Gironde, mais je sais plus, de certains réseaux islamistes terroristes.
Oui, oui. Peut-être pour les rassurer.
Des frères musulmans, voilà. Oui. Non, attention.
Peut-être pour les rassurer, Jean-Claude, il faudrait leur dire que l'islam est présent en France depuis 13 au 14e siècle.
Voilà. Hein, non seulement cela, mais en plus, je crois que ce qu'il faut aussi dire, c'est que, ici même à Bordeaux, toutes les religions, les principales religions, protestants, catholiques, musulmans,
tout à fait. Juifs, ont leur temple, leur synagogue, voilà, leur église.
Et discutent ensemble.
Et bien sûr.
Et discutent ensemble et échangent ensemble. Et ça, c'est trop peu su. Sur le terrain.
L'œcuménisme, c'est important.
Voilà.
Quoi.
Et je crois que encore une fois, moi j'ai tendance à dire, quand on veut avoir l'information, on peut
aller chercher.
Il faut un petit peu faire un effort. Parfois, on peut utiliser ou essayer de véhiculer une information sur les médias, des médias associatifs notamment. C'est plus difficile sur les masses médias puisqu'on a toujours très peu de temps et il faut toujours résumer ça de manière très synthétique et voire caricaturale, ce qui fait qu'on n'en apprend rien. On balance du slogan, mais c'est tout. Donc je crois qu'il faut essayer simplement, je dirais, de rentrer dans une époque plus de raison plutôt qu'une époque de pulsion dans laquelle on essaie de nous cantonner. La pulsion, c'est simplement travailler sur les peurs ou sur l'émotion. Donc si on travaille sur les peurs ou sur l'émotion, il n'en sortira jamais rien de bon parce que c'est pas là-dessus qu'on arrivera à se mettre d'accord.
D'accord, merci Jean-Claude. Peut-être un mot justement, quand on en parlait en filigrane de ces élections, justement la campagne, en ce moment plutôt la Ligue des droits de l'homme mène campagne pour les élections municipales, hein, donc et les élections européennes, hein, donc deux campagnes menées par la Ligue des droits de l'homme. Rappelons que les élections municipales auront lieu dans un mois, on le disait tout à l'heure Jean-Claude, donc le 23 et le 30 mars. Alors pourquoi cette campagne justement? Pour mobiliser, pour éduquer, pour faire
pour
comprendre
tout ça. Alors d'abord, une campagne pour quoi faire? Tout simplement pour faire valoir un certain nombre de valeurs. Si on veut par exemple une ville plus juste, plus fraternelle, plus solidaire, plus ouverte, plus accueillante, etc. Ce sont les slogans de la campagne. Et concrètement, pour nous, à travers l'ensemble des droits ou des libertés qui nous sont chers, nous essayons effectivement de passer au crible les programmes des candidats. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, il y a la question, l'enjeu
démocratique.
Donc là,
on ne pourra pas dire, je ne savais pas. Hein, je ne savais pas, j'ai voté par lui, mais pour lui, non. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait dans son programme.
Il y a,
vous les lisez, les programmes.
Le premier enjeu est démocratique. Donc un enjeu démocratique, faire vivre la démocratie locale, ça passe par là. Alors, il y a une loi qui a été votée récemment qui est importante. C'est la loi sur le non-cumul des mandats.
Tout à fait. Donc on ne peut plus exercer mandat d'un exécutif en étant maire, par exemple.
Certains élus ont brandi, dit « oui, mais si on coupe le lien avec le territoire », mais il ne s'agit pas du tout de ça, parce que ce n'est pas ça du tout. Je dirais, c'est simplement éviter de cumuler des fonctions de parlementaire, c'est-à-dire de député ou de sénateur,
tout en étant
ou
maire,
de député européen, avec une fonction exécutive locale, c'est-à-dire maire, adjoint au maire, président de conseil général ou de conseil régional ou vice-président de conseil général ou régional ou président de communauté d'agglo, etc.
Bon, on a le cas près de chez nous à Florac ou Artigues, que ça soit la députée voilà, à la Coué ou la sénatrice Mme Carton.
La plupart ont dit on verra ça après 2017. C'est-à-dire
tandis qu'on démissionné leur mandat
voilà,
en cours de mandat.
Et certains ont d'ores et déjà démissionné. Donc il y a cette règle du cumul. Localement, il faut voir comment elle va se mettre en place. Alors, il y a une règle, une autre loi qui n'a pas été votée pour l'instant, mais qui est aussi importante que le non-cumul des mandats, c'est celle de la durée des mandats. Ah oui.
Ça, c'est vrai.
Et oui, si on veut renouveler la classe politique, il faut faire en sorte qu'il y ait des mandats que certains ne cumulent pas les mandats dans le temps, parce que de fait, ils paralysent ou ils évitent le renouvellement.
Oui, ils peuvent se retrouver au pouvoir pendant 10, 20, 30, voire plus.
Voire plus. Donc,
limiter le cumul des mandats dans le temps.
Voilà. Il y a des questions aussi simples que aussi, on nous parle de parité, par exemple, dans les équipes municipales. Donc aujourd'hui, les listes sont composées sur une base paritaire.
Oui, mais la tête de liste est souvent un homme.
Mais les têtes de liste ou les fonctions exécutives sont occupées par qui ?
Je crois que c'est 17% de femmes qui sont maires uniquement en France.
Absolument. Mmh. Voilà, donc voilà, toute l'équation se résume à ça. Je vais pas revenir sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Je vais pas revenir, mais il faudrait en parler quand même sur le rôle des conseils de quartier. Des conseils de quartier, ça doit être avant tout composé des associations de terrain, pas par des gens qui soient prédésignés par. Donc il faut que ces conseils de quartier s'alimentent du terreau de vie de citoyenneté au niveau local. Alors, et ils existent partout.
Alors c'est vrai, pour en avoir suivi quelques-uns ici sur notre territoire, la rive droite, Jean-Claude, souvent on s'aperçoit que c'est souvent les mêmes personnes qui viennent à ces conseils de quartier et souvent ils viennent pour demander une chose qui les concerne directement, c'est-à-dire un nid de poule devant chez eux, un trottoir qui est trop haut. Enfin, on est plus dans un aspect de consommation, on va dire, de la politique que vraiment l'intérêt collectif, citoyen.
Voilà, l'idée c'est d'essayer de dépasser ça. Je dirais par exemple, on pourrait tout à fait convenir que des associations qui s'occupent de culture ou de sport aient plutôt intérêt à s'attacher à comment est-ce que à l'échelle de mon quartier la culture ou le sport
et là, du coup,
peut
ça sera
rendu
un
accessible
gain,
à tous.
Un véritable gain en termes de démocratie locale, de proximité.
Et puis bon, il y a d'autres aspects sur lesquels nous on souhaiterait que les choses avancent. C'est par exemple permettre des procédures d'alerte citoyenne ou un référendum d'initiative populaire qui permettent de voir l'inscription de certaines questions, la demande de citoyens inscrite dans le registre des débats municipaux.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est à la demande des élus simplement quoi.
Que le citoyen soit un petit peu plus aussi proactif.
Et en même temps, il y a quelques élus qui ont voulu faire ces votations, enfin ces référendums, et en fait la loi stipule qu'il faut qu'il y ait au moins 50% de la population qui vote, et le plus souvent on n'arrive pas à
Il y a déjà des villes qui l'ont mis en place, c'est en disant s'il y a 1 ou 2% des électeurs qui lancent une pétition, on inscrit la question à l'ordre du jour, donc il y a tout un tas de terrains sur la démocratie. Bon, après les autres thèmes, c'est la lutte contre les discriminations dans la ville, donc là il y a beaucoup de terrain. Un autre point qui est important aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'accès au logement.
Oui.
Et sur l'accès au logement, bien évidemment, l'accès au logement social, notamment ce qu'on appelle les PLAI, qui sont les registres de loyers les plus bas dans le logement social, parce qu'on nous dit aujourd'hui, il y a un programme de 50 000 logements sur l'incum, 30% de logements sociaux. 30% de logements sociaux, c'est quoi? À la fois, c'est beaucoup, mais c'est quoi exactement? Parce que les logements sociaux, il y a des logements sociaux et il y a des logements très sociaux. Nous, on souhaiterait effectivement.
Oui, parce qu'en fait, quand on dit logement social, il y a 70% de la population française qui peuvent accéder au logement social. Alors,
Et donc, quand on regarde encore le dernier rapport qui était rendu là par la Fondation Abbé Pierre au niveau national, et je crois qu'il y aura un rendu, je crois, au mois de mai sur ce qui se passe en région.
On s'aperçoit que les plus précaires, évidemment, n'ont pas accès à ces logements.
C'est compliqué. Donc, comment est-ce qu'on fait, on organise le vivre ensemble en assurant une certaine forme de diversité et de mixité dans la ville, y compris dans les programmes, de logement et d'accès au logement social. Un autre point qui est important pour nous au niveau local, c'est la question de la sécurité et de la tranquillité publique. Pour nous, il est évident que ça ne va pas se régler à travers des caméras de vidéosurveillance ni à travers des drones qu'on balance dans l'air.
Oui, parce qu'on n'a jamais vu une caméra courir derrière quelqu'un.
Pour nous, effectivement, il y a nécessité. Les collectivités locales ont la capacité de mettre en place, pour certaines d'entre elles, des polices municipales. Que fait-on avec ces polices municipales? Il faut peut-être que confier à cette police municipale, celui de la police à l'écoute du citoyen qui soit là pour effectivement.
Mission de médiation.
Mission de médiation, etc. Pas simplement pour mettre des PV sur les voitures qui sont en stationnement. Voilà. Donc, mais je crois que je caricature à l'extrême, mais volontairement. Mais je crois que c'est important, y compris de restaurer un dialogue entre des forces, des éléments de force de sécurité, de tranquillité publique et le citoyen à la base. Et je crois que
Vrai que sur notre territoire, la rive droite, là, dans le cadre de la ZSP, zone de sécurité prioritaire, un observatoire a été mis en place, Jean-Claude.
Et je crois qu'il faut
qui
organiser,
qui permet justement de déterminer les outils à produire pour évaluer et améliorer les relations entre la police et la population.
D'organiser l'échange entre la police, etc. Et on voit, et nous, on regrette à la Ligue des droits de l'homme que le ministère de l'Intérieur ait reculé sur le principe la remise d'un récépissé en cas de contrôle d'identité. Alors le contrôle d'identité, il y a que la police nationale.
Donc les contrôles d'identité à répétition.
Là, on ne parle pas de la police municipale, c'est la police nationale.
Qu'on appelle aussi contrôle au faciès.
On nous dit il y a un code de déontologie qui va mettre en matricule, donc déjà ça a soulevé.
Et la réapparition de ce matricule.
Ce numéro matricule, ça vaut pas le récépissé parce que en cas de contrôle, mais bon, je crois que ça pourrait être aussi utile et les expériences ailleurs à l'étranger le prouvent, y compris aux forces de sécurité elles-mêmes. Notre enjeu, c'est l'accès à tous les services publics, aux services publics pour tous. Par exemple, on pourrait tout à fait convenir que des populations qui vivent sous le seuil de pauvreté puissent avoir un accès gratuit au transport ou à certains lieux d'espace style exercice, activité sportive ou culturelle. je dirais, ça permettrait effectivement d'associer un petit peu tout le monde.
Oui, de puis de sortir de son isolement, d'aller vers les autres, justement voilà. Grâce à les activités voilà.
Donc,
sportives, culturelles, sociales.
Donc, c'est pour ça qu'on est là, y compris dans le registre du bien commun, quelque part. Bon, il y a toutes ces questions-là, à la faveur des élections municipales, qui peuvent être traitées. Nous, on va s'efforcer de les faire remonter, de voir, à travers les programmes des différents candidats, qui avance quoi dans ce registre-là.
Donc Jean-Claude, on peut retrouver ces propositions que vous avez formulées ici avec nous ce soir, de la LDH Gironde, la Fédération de la Ligue des Droits de l'Homme de la Gironde. On peut les retrouver sur le site LDH-Gironde.
Elles ne sont pas encore sur le site, puisque là, on fait un travail d'analyse. Par contre, on va tenir des stands entre les mois de mars, y compris avril, après les élections municipales.
Oui, parce qu'il y aura les européennes, pareil, même combat, j'ai envie de dire.
Alors, les européennes, c'est une autre forme de combat. Là, on va essayer aussi de tenir des réunions d'information, y compris sur les enjeux de ces élections européennes.
Très important.
C'est
pour la conduite des affaires européennes qui nous concernent tous aujourd'hui.
Alors, c'est d'autant plus important de faire entendre la voix du citoyen que l'on reproche effectivement, et peut-être à juste titre, à l'Union européenne de passer outre la voix du citoyen. Bon, on a le mauvais souvenir du référendum de 2005. Hein.
Lisbonne, voilà. Pour ou contre le traité de Lisbonne. Voilà, donc c'est vrai que les Français avaient voté contre, puis finalement il est passé au Parlement, quoi.
Voilà. Donc je crois qu'il faut utiliser le fait que désormais, il y a quand même un Parlement européen. Alors quel est le pouvoir de ce Parlement européen? Mais je crois qu'il faut pas, là encore, hésiter en tant que citoyen à saisir les députés européens qui sont sur la circonscription. Et c'est pas au moment des élections qu'il faut le faire. Certes, ils vont venir spontanément, on va les voir. Mais c'est de façon récurrente.
Pendant tout le mandat, quoi.
Voilà, qu'il s'agit d'un député européen, d'un député, d'un sénateur, d'un élu local, sur un certain nombre de... Et je dirais, y compris nous, dans la boucle, en tant qu'association, je crois qu'il faut pas hésiter à aller les voir pour les interpeller sur tel ou tel aspect des lois. Alors effectivement, c'est parfois un peu compliqué de se pencher sur des lois, sur des textes qui sont dans leur jargon administratif, pour pouvoir les décrypter. Mais bon, il y a effectivement des
associations... Mais rien n'est impossible.
Et je crois que c'est bien parfois de descendre dans la rue pour en faire entendre sa voix, etc. Bon, effectivement, on descend de plus en plus dans la rue, ça devient de plus en plus difficile de faire descendre les gens dans la rue, parce que, effectivement, l'efficacité de ce genre d'opération est très relative. Par contre, si on arrivait à construire un vrai travail, en sollicitant, en interpellant systématiquement les élus à chaque fois
sur
que possible...
Sur une base d'arguments intellectuels, rationnels...
Bien évidemment. Mais ça demande un travail...
C'est un rapport de force, finalement. Quoi.
Voilà, je dirais la
pas
citoyenneté...
Pas uniquement dans la rue, aussi, mais
voilà.
En plus...
La citoyenneté, c'est pas simplement quelque chose qu'on peut brandir comme ça, et
de
en se disant, mais ma foi, les gens vont s'en occuper...
Non, en fait, c'est un travail au quotidien, c'est une
réflexion
permanente.
C'est un travail au quotidien, et je crois que... Quelles que soient les thématiques portées par les différentes associations dans leurs domaines respectifs, elles sont tout à fait aptes à défendre leur point de vue sur des domaines qui relèvent du domaine législatif, du domaine de la décision locale, voire du domaine de la décision européenne. Et je rappellerai que beaucoup de choses qui nous touchent au quotidien sont aussi les résultats de transcription
de directives européennes, etc.
Donc je crois que il faut pas avoir peur de ça, faut pas se décourager là-dessus. Et en tous les cas, un citoyen au jour, ça se construit au jour le jour. Et je dirais, c'est pas le boulot qui manque à la Ligue, on s'en aperçoit tous les jours. Chacun dans son domaine, chacun sur son territoire peut tout à fait y contribuer et chacun est tout à fait apte à y contribuer.
Très bien, écoutez, merci pour ces encouragements. J'espère qu'ils seront entendus. Peut-être pour finir, Jean-Claude Quichenet, peut-être revenir sur l'actualité, la toute récente l'actualité ministérielle. C'était la semaine dernière, donc une réunion ministérielle qui donne la feuille de route du gouvernement pour. En ce qui concerne finalement l'intégration des étrangers. Alors, c'est vrai que parmi ce qu'on a retenu, c'était qu'il y allait avoir la création d'un délégué interministériel. Je ne sais pas si Jean-Claude, vous avez un peu regardé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est dit dans cette réunion sur cette question-là? Est-ce qu'on a vraiment fait des avancées ou est-ce que les choses restent un peu en l'état aujourd'hui?
La première avancée, c'est qu'on en parle. C'est que la question soit mise sur la table et qu'on l'évoque. Alors, il y a effectivement eu plusieurs rapports parlementaires, dont un rapport tout à fait audacieux de Monsieur Thierry Thuot, qui est un de ceux qui a alimenté la réflexion. Bon, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Je dirais que ça manque un petit peu d'audace. Parce que si on voulait vraiment résoudre un peu le problème de certains étrangers, je crois que en toute reconnaissance, il y a ce qu'on appelle les étrangers, ce sont des gens qui vivent sur notre sol, qui contribuent. Alors, on entend parfois parler des étrangers, ils viennent piquer notre boulot. Non, ils sont là pour travailler. Alors, effectivement, ça veut pas dire que tout soit simple et facile à résoudre. Je pense à une autre directive qui est celle, la directive du détachement de salariés étrangers qui pose un certain nombre de soucis.
Bien sûr.
Mais je crois que
c'est des salariés qui peuvent venir dans notre pays travailler.
L'intégration, ça passe par quoi? L'intégration, ça passe par quoi? Pour un étranger, quel qu'il soit, qui arrive en France, ou pour tous les Français qui vont à l'étranger aussi.
Oui, il faut pas l'oublier.
Faut pas l'oublier. Il y en a à peu près 2 millions, si je me souviens.
C'est ça.
Quand même. L'intégration, il y a certes l'apprentissage de la langue, pouvoir communiquer, bon, ça,
c'est-à-dire
ok.
C'est les fondamentaux, quoi.
Mais ça, je l'évoque parce que on s'aperçoit ici que toutes les associations qui travaillent sur l'apprentissage de la langue française sont aujourd'hui complètement saturées de demandes et ont du mal à répondre. Et je crois qu'il faut reconnaître le travail de ces associations-là. Et je lance un appel du pied à toutes les collectivités locales ou territoriales pour dire il y a un vrai enjeu là-dessus et il faut des moyens.
Et il y a une véritable demande.
Il y a une demande, je dirais. On peut pas reprocher aux étrangers de
vouloir apprendre notre langue.
Si en plus, je dirais, ils n'ont pas les moyens de le faire.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a un premier enjeu là-dessus. Ensuite, bien évidemment, c'est la règle administrative du séjour. Donc, on attend toujours le titre de séjour de 3 ans. Ce qui soulagerait aussi au passage un peu les services préfectoraux qui sont sursaturés et qui ont actuellement, on constate encore des dysfonctionnements malgré les tentatives d'amélioration de l'accueil des étrangers en préfecture, etc. On a un collectif d'associations en Gironde qui s'est créé là-dessus. On a publié un rapport assez critique en 2012. Voilà, on a rencontré à plusieurs reprises au courant de l'année 2013 les services préfectoraux, mais aujourd'hui, malgré tout, et malgré les évolutions apportées aux services, alors effectivement, il y a moins la queue physiquement devant guichet.
Ça ne veut pas dire que les dossiers avancent plus vite.
Mais ça ne veut pas dire que les dossiers avancent plus vite, et même 100%, parfois...
On s'en rend plus compte vu qu'on ne voit plus la queue.
Bon, après, il faut bien se rendre compte que... il faut prendre, peser, les choses et les contraintes là où elles sont, que les services préfectoraux sont des services publics avec les contraintes actuelles du service public.
Le manque de personnel, des fois.
Oui, absolument. Et il faut savoir qu'en Gironde, du fait du renouvellement au moins tous les ans des titres de séjour, c'est à peu près, si mes souvenirs sont bons, 20 000 demandes
par an
qui doivent être traitées. Donc, avec un service qui doit faire quoi, une quinzaine de personnes.
Effectivement, on diviserait au moins le chiffre par 3.
Voilà. Si on mettait en place pour les gens qui sont en situation, qui ont un employeur, ou une situation familiale stable, faire un titre de séjour tous les 3 ans, ça permettrait aussi de désengorger administrativement, et ça donnerait à la fois plus de sécurité et plus de lisibilité aux gens de se construire.
Donc ça, c'est une proposition très...
Mais c'est dans les tuyaux, et on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on attend pour sortir ça, et qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette histoire. Là, il y a déjà cette analyse-là. Après, sur l'asile, il y a une évolution aussi de la réglementation qui va plutôt dans le bon sens. Il y a une directive européenne, on transcrit une directive européenne, il y a un certain nombre de choses qui avancent, qui évoluent. Là encore, c'est toujours pareil, il y a un enjeu en termes de moyens, quoi. Mais bon, voilà, il faut quand même qu'on se donne les moyens de ce que l'on souhaite. Si on veut une société qui intègre, c'est une société du vivre ensemble, il faut aussi s'en donner et la volonté, il faut le vouloir, donc il faut arrêter les discours qui placent une communauté par rapport à telle autre, etc., et commencer à tenir des discours qui peuvent être parfois discours discriminatoires. Donc il faut arrêter avec ces discours-là, dans l'espace public en tous les cas, de la part de représentants des pouvoirs publics, ou pour certains d'entre eux, et dire comment est-ce qu'on construit le vivre ensemble et faisons en sorte que tous ces apports-là soient considérés comme une richesse et construisons là-dessus. L'ouverture au monde, elle commence aussi au plus près de chez soi.
Mais écoutez, on va finir là-dessus. Jean-Claude Guichenet, on vous remercie de votre intervention dans l'écho des associations pour présenter les activités, les missions, les objectifs de la Fédération de la Ligue des Droits de l'Homme de la Gironde. Voilà, vous êtes son président. Donc, plus d'informations sur la Ligue, allez voir sur le site ldh-gironde.org. Et puis à très bientôt, Jean-Claude.
Merci à vous et merci à tous les auditeurs.
Merci. Et on remercie Jérôme à la régie technique d'Odo Radio. Et on salue nos amis de Lacuna, voilà, qui sont arrivés, qui vont prendre tout de suite la suite des événements. À bientôt. Au revoir.